Vous écoutez bien Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, 13h ici à Paris. RFI Midi se poursuit avec le journal tout de suite. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. À la une, un plan de l'enfer, menace d'Israël contre Gaza. L'entrée de l'aide humanitaire est déjà bloquée aux portes du territoire malgré l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. On est en direct de Jérusalem dans un petit instant. Pas d'accord à ce stade entre Londres et Paris pour une trêve d'un mois en Ukraine. Précision de la Grande-Bretagne alors que les Européens tentent de serrer les rangs autour de Kiev. Les États-Unis de leur côté ordonnent une pause dans les opérations cyber contre la Russie.
RFI.
À suivre aussi la démission du vice-président Mohamed Javad Zarif en Iran. Quelques heures après une motion de censure contre le ministre de l'économie, ce sont deux coups durs pour le gouvernement du président modéré Massoud Pezeshkian. En France, place au covoiturage sur le périph parisien avec une voie désormais réservée aux véhicules transportant au moins deux passagers. Et puis Anora rafle la mise aux Oscars du cinéma. Le film de l'américain Sean Baker a remporté pas moins de 5 statuettes. Déception, en revanche, pour Emilia Pérez du français Jacques Audiard.
À son tour, Berlin appelle Israël à lever immédiatement les entraves à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Oui, nouvelle réaction après le blocage de cette aide vers le territoire palestinien par l'État hébreu jusqu'à nouvel ordre. Et ce n'est peut-être pas tout. Sami Bourlifa, on vous retrouve en direct de Jérusalem malgré le très fragile accord de trêve avec le Hamas. Israël a mené des frappes dans la bande de Gaza et menace de lancer une opération baptisée Plan de l'enfer, un plan qui comprendrait aussi l'arrêt de l'approvisionnement en électricité à Gaza et le déplacement vers le sud des populations tout juste rentrées dans le nord, ainsi qu'une reprise, c'est ça, des combats à grande échelle.
Oui, ce serait une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. Dès qu'ils le peuvent, les Israéliens mettent un coup de pied dans le processus de trêve en espérant tout faire capoter, explique une source diplomatique. De nouveau, Gaza compte ses morts et ses blessés, frappe hier et aujourd'hui à Khan Younes, tire à Rafah. C'est dans ces régions du sud de l'enclave qu'Israël souhaite encore une fois envoyer la population gazaoui un nouveau déplacement forcé. L'accord signé par Israël et le Hamas en janvier devait être mis en œuvre en 3 phases. La première a bien eu lieu, arrêt des combats, libération de 33 otages israéliens contre quelques 1700 détenus palestiniens, retrait partiel des troupes israéliennes de Gaza et retour des populations déplacées dans le nord. La deuxième phase doit débuter en ce mois de mars, elle prévoit en théorie la libération du reste des otages et doit mener à l'arrêt définitif de la guerre qui conduira à la phase 3 et à la reconstruction de Gaza. C'était sans compter sur Benjamin Netanyahou qui semble disposer plutôt de tout le soutien de Washington. Il affirme avoir reçu de la nouvelle administration américaine toutes les munitions qu'il souhaitait et qui étaient bloquées par l'administration précédente de Joe Biden.
Sami Bourlifa, en direct de Jérusalem. Par ailleurs, une attaque au couteau a fait un mort et 4 blessés ce matin à Haïfa, c'est dans le nord de l'État hébreu. L'assaillant a été tué. Selon la police, il s'agit d'un druze israélien récemment rentré de l'étranger. La police qui parle d'une attaque terroriste.
À chacun son interprétation de l'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump vendredi dernier à la Maison Blanche. Sans surprise, Moscou accuse le président ukrainien d'être responsable et lui reproche de ne pas vouloir la paix.
Volodymyr Zelensky critiqué par le Kremlin mais soutenu par les Européens, réunis hier en sommet à Londres pour serrer les rangs, élaborer une stratégie commune de soutien, même si la Grande-Bretagne l'indique ce matin qu'il n'y a pas d'accord avec Paris à ce stade sur une proposition de trêve d'un mois en Ukraine. Il y a urgence, en tout cas à faire bloc, selon le ministre français des Affaires étrangères. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous, c'est ce que dit Jean-Noël Barrot.
Ce qui sort du sommet d'hier à Londres, c'est deux choses. À court terme et pour mettre fin à la guerre d'agression russe en Ukraine, nous voulons que les États-Unis, par la pression, puissent faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations et accepter de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ses ambitions impérialistes qui ont déplacé la ligne de front de plus en plus proche de chez nous. Et la deuxième chose, et qui est tout aussi importante, c'est que nous voulons que l'Europe puisse assurer sa propre défense et sa propre sécurité, et que nous mettions en œuvre les moyens nécessaires pour ne plus jamais avoir à demander aux États-Unis ce qu'ils peuvent faire pour la sécurité européenne. Nous voulons plus jamais nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes.
Voilà le ministre français des Affaires étrangères tout à l'heure chez nos confrères de France Inter. Alors après Londres hier, le prochain rendez-vous pour les Européens ce sera jeudi à Bruxelles. Jean-Jacques Herry à Bruxelles avec cet objectif, une plus grande indépendance donc européenne en manière de défense.
Ce qui sera discuté au sommet de jeudi obéira aux mêmes lignes directrices que celles affirmées hier à Londres. Un soutien de l'UE à l'Ukraine en coordination avec les alliés hors de l'Union, mais aussi et toujours avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN pour parvenir à une paix avec des garanties de sécurité. Dans ce contexte, la déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, hier à la sortie du sommet de Londres, n'a surpris personne.
Après une longue période de sous-investissement, il est désormais de la plus haute importance d'augmenter les investissements de défense sur le long terme, et ceci pour la sécurité de l'Union européenne. Dans le contexte géostratégique actuel, nous devons nous préparer au pire.
La Commission présentera en effet jeudi au 27 son plan global de réarmement de l'Europe, selon Ursula von der Leyen, pour permettre aux États membres d'augmenter plus rapidement leurs dépenses militaires. Bruxelles pourrait assouplir ses règles budgétaires, et ce, alors que plusieurs pays, dont la France, doivent faire des efforts pour réduire un déficit jugé excessif. Il faudra également scruter l'attitude de Viktor Orban. Le président hongrois menace déjà de ne pas signer les conclusions du sommet qui aura lieu dans 3 jours. Lui qui appelle l'UE à discuter directement avec la Russie pour parvenir à la paix, à l'instar de ce que font les États-Unis. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et avant ce sommet européen, débat sans vote aura lieu tout à l'heure, là cet après-midi à l'Assemblée nationale à Paris. Idem au Sénat. Demain, débat entre parlementaires sur la situation en Ukraine et sur la sécurité européenne, sachant qu'il y a de profondes divisions dans la classe politique française sur l'attitude à adopter, et notamment sur un dialogue ou pas avec Vladimir Poutine.
Et parmi les pistes évoquées pour renforcer l'Europe face à la Russie, le président français avait proposé il y a quelques jours un partage de la dissuasion nucléaire, et on en parlera dans quelques minutes avec notre invité, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN.
Et alors que les États-Unis, de leur côté, opèrent un rapprochement historique avec la Russie, avec Moscou, le Pentagone américain a ordonné une pause dans toutes les opérations cyber contre la Russie, y compris les actions informatiques offensives. C'est une information du New York Times, Lila Olkinoura, et c'est loin d'être anodin.
Oui, parce que c'était une pièce maîtresse de la cyberstratégie américaine. En effet, c'est pour répondre aux menaces informatiques russes que le Cybercommande a été créé en 2010, une force de plusieurs milliers d'agents informatiques qui mènent des missions offensives et défensives pour le compte des États-Unis, mais dont les agents sont aussi déployés chez les alliés américains en soutien contre les menaces cybercriminelles, par exemple en Ukraine avant l'invasion russe de 2022, pour aider Kiev à se préparer à un assaut de cyberattaques de Moscou. Aujourd'hui, cette suspension des opérations compromet l'accès américain aux principaux réseaux russes au moment même où se tiennent des négociations bilatérales entre Moscou et Washington sur l'avenir de l'Ukraine. Dans cette bataille diplomatique, cette suspension est un pari risqué. La Russie est accusée de mener une guerre hybride contre l'Europe et les États-Unis. Une pause des cyberopérations augmente donc la vulnérabilité des Occidentaux. Mais pour Donald Trump, la Russie n'est plus une menace. Il l'assure, nous devrions passer moins de temps à nous soucier de Poutine et plus de temps à nous inquiéter des immigrants pour ne pas finir comme l'Europe. Un changement total de paradigme.
En Iran, il dit avoir fait face aux insultes, aux calomnies, aux menaces. Aussi, le vice-président Mohammad Javad Zarif a présenté sa démission. Ancien ministre des Affaires étrangères, architecte aussi de l'accord sur le nucléaire côté iranien il y a 10 ans. C'est une figure politique dans le pays, alliée du président. Et cette démission intervient juste après une motion de censure contre le ministre de l'économie, Siavash Ghazi.
En moins de quelques heures, le gouvernement du président modéré iranien Masoud Pezeshkian a reçu 2 coups durs. Son ministre de l'économie, Abdel Nasser Hemmati, a été censuré par le Parlement, contrôlé par les conservateurs qui lui reprochaient sa politique monétaire. En effet, le rial iranien a largement chuté ces 6 derniers mois, perdant plus de 60% de sa valeur. Ce n'est pas tout, Mohammad Javad Zarif, vice-président iranien chargé des affaires stratégiques, mais surtout ancien ministre des Affaires étrangères qui avait négocié l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances, a annoncé sa démission forcée. Il a en effet expliqué que le chef de l'autorité judiciaire lui avait demandé de quitter son poste. Selon la loi iranienne, les personnes dont les enfants ou la femme possèdent une nationalité étrangère n'ont pas le droit d'occuper une position gouvernementale. Or, les deux enfants de Mohammad Javad Zarif, nés aux États-Unis, ont la double nationalité américaine et iranienne. Cela intervient alors que les experts prévoient une aggravation de la crise économique ces prochains mois, en particulier avec la politique de pression maximale décidée par le président Trump contre l'Iran à cause de son programme nucléaire. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Une nouvelle étape dans la crise entre Paris et Alger. La France prépare une liste de plusieurs centaines de ressortissants algériens au profil jugé dangereux et qu'elle souhaite renvoyer dans leur pays. Annonce tout à l'heure du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui a évoqué une stratégie de riposte graduée vis-à-vis d'Alger.
En France, toujours, il y a du nouveau sur le périph' à Paris ce lundi.
Le boulevard périphérique, cette grande ceinture routière autour de la capitale, une voie est désormais réservée au covoiturage. Et pour la mairie de Paris, Stéphanie Schuller, c'est un pas de plus pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Plus d'un million de voitures circulent chaque jour sur le périphérique parisien. 8/10 ne transportent qu'une seule personne, le conducteur. Pour atténuer la pollution, atmosphérique comme sonore, la mairie de Paris veut inciter ses automobilistes solitaires à changer leurs habitudes. À partir de ce lundi, il faudra être au moins 2 par véhicule pour avoir le droit de rouler sur la voie de gauche du périphérique, celle où la circulation est habituellement la plus fluide. Cette règle s'applique en semaine aux heures de pointe, de 7h à 10h30 et de 16h à 20h, et 2 autoroutes autour de Paris seront soumises au même régime. Le nombre de passagers dans chaque véhicule sera détecté par des caméras de surveillance. À partir du mois de mai, les contrevenants devront payer 135 euros d'amende. L'aménagement d'une voie réservée avait été expérimenté pendant les Jeux Olympiques et fait partie du plan climat de la capitale française. L'an dernier, la mairie de Paris avait déjà limité la vitesse sur le périphérique à 50 km/h. Résultat immédiat, moins d'embouteillages, moins d'accidents et moins de bruit.
Mais après cette récente baisse de la vitesse sur le périph', ça a fait grincer des dents, notamment à droite. Plusieurs responsables dénoncent l'absence d'impact avec cette nouvelle voie covoiturage et le risque aussi de bouchons autour de Paris.
Il avait déjà convaincu le jury du Festival de Cannes il y a quelques mois. Anora, film de Sean Baker, a fait un carton la nuit dernière à la cérémonie des Oscars du cinéma.
À Los Angeles, cérémonie que vous avez suivie, Elisabeth Le Quéré. Anora, cette tragique comédie a raflé pas moins de 5 statuettes.
Oui, après sa Palme d'Or, Anora rafle non seulement la récompense suprême, l'Oscar du meilleur film, mais aussi le prix du meilleur scénario, meilleur montage, meilleur réalisateur pour Sean Baker, et surtout l'Oscar de la meilleure actrice pour Mikey Madison. Dans Anora, elle incarne une call girl qui épouse le rejeton d'un oligarque russe.
J'ai grandi à Los Angeles, mais Hollywood m'a toujours semblé si loin. Alors, être dans cette pièce aujourd'hui, c'est incroyable. Et je veux rendre hommage à la communauté des travailleuses du sexe. Avoir le privilège de rencontrer toutes ces femmes incroyables a été l'un des points forts de toute cette expérience.
Déception, en revanche, pour Emilia Pérez, en dépit de ses 13 nominations, le film de Jacques Audiard n'a remporté que 2 statuettes, meilleure chanson et meilleur second rôle féminin pour Zoé Saldana. The Brutalist de Brady Corbett s'est pour sa part vu attribuer 3 récompenses, dont celle très prestigieuse du meilleur acteur pour Adrien Brody. Dans cette fresque monumentale, il incarne un architecte survivant de la Shoah. L'acteur de 51 ans en a profité pour livrer un plaidoyer anti-Trump, l'une des rares incursions politiques dans cette cérémonie.
Elisabeth Le Quéré, vous évoquiez le prix, la statuette de la meilleure chanson originale pour Emilia Pérez. Donc c'est Elle Mal du duo Camille et Clément du une chanson qu'ils décrivent tous les deux comme pour un titre pour dénoncer la corruption. On écoute.
Miren al químico, químico que lo nombraron ministro de algo. El químico era cebo comando a matar a sus socios y familia a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los raptan a tiros. Los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar.
Ustedes me sacan ventaja. Elma, meilleure chanson originale donc aux Oscars la nuit dernière pour le film Emilia Pérez. Il est 4h15 à Los Angeles. Anne Cantner pour la suite des RFI Midi.
Merci Charlotte Hydrac. On va parler de l'actualité sportive tout de suite. Avec vous, Christophe Diremzian, bonjour.
Bonjour Anne.
C'est la face sombre du football français qui est encore d'actualité aujourd'hui avec ce coup de sang de l'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca, contre un arbitre.
Visiblement, la leçon dans l'affaire Pablo Longoria n'a pas du tout été apprise. Hier, vers la fin du match Lyon-Brest, remporté 2-1 par les Lyonnais, le technicien portugais Loel, exclu par l'arbitre Benoît Millot pour son attitude au bord du terrain, vient le provoquer tête contre tête en lui hurlant au visage avant d'être éloigné par le joueur Corentin Tolisso, puis par les membres de l'encadrement. Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, conscient d'avoir perdu ses nerfs, il tente de faire amende honorable.
Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse. Je ne veux pas excuser pourquoi j'ai à vous sagesse. Qu'est-ce que je veux dire et que m'excuse, que je ne devais pas faire ça.
Et sauf que ce maigre mea culpa ne devrait pas changer grand-chose à ce qu'il attend, à savoir une longue suspension. Le syndicat des arbitres du football d'élite a dénoncé dans un communiqué un acte de brutalité envers un arbitre et appelé à des sanctions à la hauteur de cet acte d'une gravité extrême. Fin de citation. La commission de discipline de la Ligue a convoqué d'ailleurs Paulo Fonseca dès mercredi. Sportivement parlant, Lyon est 6e du classement à l'issue de la 24e journée. Marseille reprend seul la 2e place après sa victoire à domicile sur Nantes 2-0 et 3 victoires à l'extérieur à noter, celle de Strasbourg à Auxerre 1-0, de Rennes chez la Lanterne Rouge Montpellier surclassé 4-0 et de Toulouse à Angers balayé sur le même score.
Les clubs professionnels français par ailleurs rassemblés cet après-midi à Paris pour une réunion de crise.
Crise économique surtout en pleine résurgence d'un conflit autour des droits télé entre la Ligue et l'actuel diffuseur DAZN. La Fédération française accueille ses états généraux en quelque sorte avec l'objectif d'aller au-delà de ce nouveau contentieux, c'est-à-dire ouvrir la voie d'une nouvelle gouvernance du foot professionnel qui répartirait différemment les rôles de chaque institution et réfléchir à un nouveau modèle économique.
Et puis en Italie, 27e journée de Serie A, elle s'achève ce soir à Turin.
Où la Juventus 5e affronte l'Hellas Vérone pour se rapprocher du podium et continuer à se mêler à la bataille pour le titre. La Juve doit impérativement l'emporter sur le modeste 14e. Mais ça n'a rien d'évident vu la situation sportive du club actuellement, éliminé mercredi en Coupe d'Italie au tir au but par Empoli, écarté de la Ligue des Champions. L'équipe de Thiago Motta n'est pas très en confiance. L'entraîneur Thiago Motta, l'Italien donc, ne le nie pas. En revanche, il réfute toute tension dans le vestiaire.
Ce n'est pas facile compte tenu de la façon dont nous avons perdu le dernier match. Nous devons nous concentrer sur le prochain. Ça s'annonce difficile, mais nous sommes pleins d'énergie et désireux de canaliser cette colère pour battre nos adversaires et prendre les 3 points. Ma relation avec le groupe reste excellente. Il y a de l'honnêteté, de la responsabilité et une communication ouverte. En tant qu'entraîneur, je dois prendre des décisions. Parfois, je choisis un joueur et le match suivant, c'est un autre. Je fais toujours mes choix avec respect et les joueurs l'ont toujours accepté. C'est pourquoi nous avons une très bonne relation et ceux qui disent le contraire sont des menteurs.
Thiago Motta avant Juventus Turin et l'AS Vérone, coup d'envoi 19h45, temps universel.
Merci Christophe Diremzian. Toute l'actualité du foot, Radio Foot International cet après-midi à partir de 16h10, temps universel. Et tout de suite, notre invité.
RFI Le Monde à midi.
Bonjour Camille Grand.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, directeur du programme Défense au Conseil européen pour les relations internationales et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Nous allons revenir avec vous sur cette idée évoquée par Emmanuel Macron il y a quelques jours pour renforcer l'Europe face à la Russie dans le contexte que l'on connaît de désengagement ou de menace de désengagement des États-Unis. Le président français avait parlé d'un partage de la dissuasion nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, on ne le sait pas encore de manière très précise. La France dit depuis longtemps, et le président de la République l'a rappelé dès 2020, que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment opérationnaliser en quelque sorte cette affirmation et comment lui donner davantage de contenu. Ce qu'a dit le président dans son interview à Lisbonne et ce qu'il a répété ces jours-ci, c'est que ça ne n'était pas un changement de doctrine pour la France, mais l'ouverture d'une discussion approfondie avec nos partenaires européens pour savoir comment est-ce que la dissuasion française, mais aussi la dissuasion britannique, pouvait jouer un rôle plus marqué pour la défense de l'Europe dans un contexte, je dirais, double, avec d'un côté la menace russe et le fait que Vladimir Poutine n'hésite pas à parler régulièrement de son arsenal nucléaire et est en train de le moderniser, et d'un autre côté des doutes qui ne seront peut-être pas confirmés, mais sur la solidité de la dissuasion élargie américaine, donc de la garantie américaine.
Et quelle forme est-ce que ça pourrait prendre ? Ça veut dire installer des armes nucléaires dans d'autres pays européens ?
On n'en est pas encore là. C'est pas forcément la demande de pays européens d'ailleurs. Ce qui semble se dessiner, c'est davantage, par exemple, le fait de faire des exercices en commun, d'avoir des et ça, il y a déjà eu quelques signaux dans ce sens, notamment avec l'armée de l'air italienne, où les forces aériennes stratégiques françaises ouvrent leurs exercices à de la participation de partenaires européens pour apprendre à travailler ensemble, ce qui peut être évidemment très utile dans un contexte de crise. Donc on est dans quelque chose qui est plus léger que la dissuasion américaine. Je crois que ce qui est important d'avoir en tête, c'est ce que ça ne sera pas, c'est-à-dire que ça n'est pas une dissuasion de l'Union européenne où il y aurait un bouton virtuel à Bruxelles. Ça reste la dissuasion française, mise en œuvre par la France et sur décision du président de la République, mais avec davantage de concertation avec nos partenaires européens. Ça ne sera pas non plus la dissuasion à l'américaine, consistant à placer des bombes américaines sous des avions pilotés par des Allemands, des Belges ou des Néerlandais. La France n'est pas les États-Unis de ce point de vue-là.
Alors, quel est le message d'Emmanuel Macron quand il dit ça ? Est-ce qu'il s'adresse aux Russes ou bien est-ce qu'il s'adresse aux autres pays européens pour se positionner, lui, à son tour, en tant que protecteur ?
C'est deux choses. C'est d'une part un rappel qui est de dire qu'il y a d'autres puissances nucléaires en Europe que les États-Unis, que sont la France et le Royaume-Uni. Et ces deux puissances nucléaires jouent, ce que d'ailleurs on dit à l'OTAN depuis 1974, ont un rôle dissuasif propre. Donc c'est une ouverture et un rappel, me semble-t-il, utile dans le contexte présent. La deuxième chose, c'est un signal effectivement vers les partenaires européens en disant, écoutez, la question nucléaire est une des questions les plus compliquées dans la relation avec les États-Unis, puisque c'est la dissuasion élargie américaine est un élément essentiel et le parapluie nucléaire américain est un élément essentiel de la construction qu'on a à l'OTAN. Vous devez savoir qu'il y a d'autres puissances nucléaires en Europe qui, sans vouloir offrir la même chose, peuvent jouer un rôle dans le contexte de sécurité dégradé que nous connaissons.
Alors la France, elle, est autonome en ce qui concerne son armement nucléaire. Le Royaume-Uni dépend en partie des États-Unis. Est-ce que vous pensez que Londres aurait les mains libres ?
La dissuasion nucléaire britannique est souveraine dans sa décision. Elle est dépendante des États-Unis techniquement, notamment les missiles qui sont à bord des sous-marins britanniques sont des missiles fabriqués aux États-Unis. Et donc, il y a une forme de dépendance technique vis-à-vis des Américains. Je pense que dans un contexte de crise, les Britanniques ont évidemment un rôle à jouer pour être présents dans cette discussion. Et donc, c'est pas exactement le même modèle, mais il faut pas considérer que les Britanniques sont non pertinents dans tout ça.
Alors Emmanuel Macron a bien parlé de partage de la dissuasion nucléaire. C'est bien comme ça que les armes nucléaires sont envisagées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, si le projet était mené à terme, il permettrait de changer quelque chose au cours du conflit en Ukraine, selon vous ?
Non, c'est pas l'objet. L'arme nucléaire n'a pas vocation à être utilisée dans un contexte ukrainien, évidemment. En revanche, il permettrait de, je pense, rassurer les Européens qui se trouvent dans un moment difficile où la Russie agite la menace nucléaire, mène cette opération en Ukraine à l'abri de sa propre dissuasion et où il y a un doute sur la fermeté de l'engagement américain. Donc le fait de rappeler qu'il y a en Europe deux puissances nucléaires qui sont des puissances nucléaires modernes, capables, et qui sont prêtes à avoir une discussion approfondie avec leurs partenaires européens, est un élément rassurant dans ce contexte stratégique très mouvant.
C'est ce contexte qui explique le fait qu'Emmanuel Macron en parle maintenant, lui qui a beaucoup critiqué notamment la posture qu'il qualifiait d'escalatoire de la Russie quand Vladimir Poutine faisait référence à l'arme nucléaire.
Oui, c'est ce contexte qui le justifie. Les déclarations d'Emmanuel Macron ne sont pas escalatoires au sens où il n'y a pas de menace directe ou indirecte vis-à-vis de qui que ce soit. Il y a juste le rappel que la France est une puissance nucléaire et le rappel d'une ouverture à une discussion avec nos partenaires européens. Donc c'est plus une manière de mettre en avant la dissuasion française et de rappeler notre disponibilité à des conversations plus approfondies. Tout ça dans un contexte où le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, a appelé une telle conversation de ses voeux avec la France et le Royaume-Uni.
Merci Camille Grand, chercheur, directeur du programme Défense au Conseil européen pour les relations internationales et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de votre invitation.
RFI Midi.
Reportage en Afrique du Sud. Le pays vient d'accueillir un sommet réunissant plus de 500 banques de développement contraintes de revoir leur financement, leur stratégie après l'arrêt brutal des aides américaines et la suspension de 90% des activités de l'agence USAID. Notre reporter Valentin Hugues s'est entretenu avec différentes délégations partagées entre la crainte d'un côté et l'espoir quand même de nouvelles perspectives.
L'actualité américaine a presque été mise de côté le temps de ces trois jours de sommet. Une rapide mention lors de la cérémonie d'ouverture.
Si certains grands pays venaient à manquer à leurs responsabilités dans ce domaine, et je ne dis pas cela complètement au hasard, cela irait probablement à l'encontre de leurs propres intérêts nationaux.
Et la réaction de l'Assemblée pour rappeler que le sujet est dans toutes les têtes.
Permettez-moi de conclure en citant une grande figure américaine.
Benjamin Franklin
disait « Nous devons tous nous serrer les coudes ou assurément nous serons tous pendus séparément. Serrons-nous les coudes à ce sommet. »
L'arrêt de plus de 90% des activités de l'agence américaine USAID dans le monde représente 60 milliards d'aides en moins, dit Naa Mutumwa, responsable financière de la Banque de développement namibienne.
D'un point de vue africain, il est vraiment important que nous entamions une vraie réflexion sur nous-mêmes, voir comment nous pouvons subvenir à nos besoins. S'appuyer sur l'extérieur doit être un plus, pas quelque chose sur lequel nous comptons à 100%. Avec ces décisions américaines, je crois qu'il est plus important que jamais que les gouvernements locaux réfléchissent et se demandent comment combler cette lacune. C'est aussi notre rôle en tant que banque de développement national.
Les États-Unis sont les principaux actionnaires des grandes banques de développement. C'est aussi un puissant outil diplomatique. Alors si dans les couloirs du centre de conférence du Cap, on s'accorde sur le besoin de refonte du système de financement, avec une plus grande place pour le secteur privé par exemple, il y a tout de même de l'espoir selon Moubarak Moukaïla, responsable climat de la Banque de développement d'Afrique de l'Ouest.
Il faut dissocier la question des partenariats, la question de la collaboration et la question de l'aide publique au développement. Les changements climatiques, par exemple, c'est une question transversale. Tout le monde est obligé de s'asseoir autour de la table pour trouver des solutions. La question liée à l'aide publique au développement est une autre question, et une question complètement politique et une question stratégique. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, les États-Unis ne vont pas complètement s'écarter. Je pense que la réalité va le rattraper et la réalité va faire que les États-Unis vont continuer par investir dans les questions liées au changement climatique.
Reste que le projet de Donald Trump de passer en revue chaque financement international inquiète. Le sommet finance en commun a donc pris des allures de réelle coalition comme un bloc entre les plus de 500 banques de développement du monde entier. Valentin Hugues, de retour du Cap, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur l'application RFI Pure Radio. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes, l'actualité africaine. Et puis à partir de 13h, temps universel, notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous pourrez entendre notamment le coordinateur du principal syndicat de police d'Haïti qui lance un ultimatum aux autorités face aux nouvelles attaques des gangs. À tout de suite.
Bonjour, je suis Dougal Kemp, j'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée, c'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix en partenariat avec l'INA, Adobe et Aprim Publishing.